L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Je dois vous faire un aveu radiophonique. Depuis 15 ans, je n'ai plus de télévision. C'est un choix assez logique pour un amateur de radio et d'histoire audio qui déteste se poser devant un flux d'images. C'est un peu moins logique quand, comme moi, on traite chaque semaine de l'actualité et de l'évolution des médias. Bien entendu, j'arrive à me rattraper avec mon micro-ordinateur qui reçoit des milliers de chaînes et de programmes, mais c'est loin d'être suffisant pour avoir un regard aiguisé sur l'évolution du petit écran. Vous aurez peut-être remarqué que l'on parle d'ailleurs peu de la télé dans l'atelier, c'est une des explications. J'espère que vous ne nous en voulez pas. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos suggestions et remarques par mail ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tout cas, l'équipe de l'atelier se rachète en ne parlant que de télé pendant une heure. Émission spéciale cette semaine avec un seul invité, William Irigoyen, qui vient de publier un livre intitulé tout simplement « Jeter le JT ».
L'atelier des médias. La web émission participative. Ziad Malouf, Simon de Creuse. Et vous ?
Bonjour William Irigoyen.
Bonjour Ziad Malouf.
Vous êtes journaliste, vous avez travaillé essentiellement à la télévision, d'abord pour France 2 et France 3. En 2001, vous avez rejoint Arte, la chaîne culturelle franco-allemande, pour y présenter Arte Info, c'est-à-dire le journal télévisé d'Arte. Depuis 2012, vous êtes le présentateur du magazine Arte Reportage, c'est ça ? Tout
absolument,
est bon jusqu'à maintenant.
Absolument. Oui, je pourrais apporter quelques correctifs, mais c'est,
ah oui,
c'est à la marge.
Lesquels ?
C'est en 2004 que j'ai commencé à présenter le journal, pas en 2001, mais je suis arrivé chez Arte en 2001, effectivement.
Vous venez de publier Jeter le JT. Le JT, c'est comme ça qu'on appelle le journal télévisé. Sous-titre, réfléchir à 20h, est-il possible ? Il s'agit d'un essai publié chez François Bourin sur la pertinence du journal de 20h et plus généralement sur l'information télévisée. Pour vous interroger, je suis avec Raphaël Constant. Salut Raphaël.
Bonjour.
Je vais vous lire pour introduire cet entretien et les propos de votre livre. Plus de 60 ans après la naissance du JT, les Inrecuptibles s'interrogent en une sur la nécessité ou non de jeter le 20h. Je précise qu'il s'agit d'une une de juin 2012 qui était intitulée « Faut-il jeter le 20h ?» Je continue à vous citer. « En visant cette grand-messe, l'hebdomadaire culturel français entend sans doute provoquer un débat sur les raisons pour lesquelles des millions de téléspectateurs, toutes chaînes confondues, choisissent rituellement, chaque soir, à la même heure, d'allumer leur poste de télévision ou leur ordinateur pour s'informer. Puisse ce livre avoir le mérite de s'emparer de cette question qui interroge en premier lieu le contenu d'un journal et sa réception par les téléspectateurs, ce qu'ils y trouvent et n'y trouvent pas.
Oui, ça me semble être assez fidèle à ce que j'ai écrit.
Pourquoi avoir voulu vous intéresser au JT, parler du JT dans cet essai ?
C'est à la fois simple et compliqué. Je ne l'aurais pas fait de mon propre chef. Ça a été une commande, figurez-vous, par l'ancien directeur des éditions Armand Collin, Jean-Christophe Tamisier, lequel a été viré quelque temps après. Et évidemment, son successeur s'est empressé de ne pas m'appeler et de me laisser un peu dans le flou jusqu'à ce que j'apprenne un jour ou l'autre que le livre qui m'avait été commandé par Armand Collin ne l'était plus. Et donc, je me retrouvais avec les deux tiers d'un livre qui était donc inachevé. Et donc, je suis allé frapper à une autre porte, en l'occurrence celle des éditions François Bourin et mon ami Emmanuel Lemieux, et qui a eu la gentillesse de continuer l'aventure avec moi.
Alors, je reprécise ma question. Pourquoi avoir accepté cette proposition d'écrire sur le JT ?
Parce que pendant de très longs mois et de très longues années, je me suis retrouvé, et j'ai été surpris de recevoir un certain nombre de courriers de téléspectateurs ou d'être apostrophés par des téléspectateurs lors d'animations, lors de rencontres publiques, et qui me demandaient toujours de parler des coulisses. Et souvent, je mesurais chez eux, sinon une défiance vis-à-vis du journal télévisé, du moins une méfiance, tout en disant qu'ils continuaient de suivre cette grand-messe télévisée.
Ça, c'était pendant que vous travailliez à
absolument,
France 2 ou
absolument.
Ou
non,
déjà
non,
Arte.
c'était déjà chez Arte. Et donc, ce livre a eu pour ambition de rebondir sur ces questions-là et de leur signifier aussi, parce que c'est un livre qui s'adresse avant tout au grand public et pas vraiment à la presse, c'est un livre qui a pour ambition de s'adresser au grand public en disant à ce grand public, vous pensez des choses, vous n'êtes pas les seuls à penser cela, et il y a aussi des gens qui travaillent en interne qui se posent des questions. pas toutes les mêmes questions, mais un certain nombre de questions. Et si vous voulez, par une espèce de dialogue fictif, je vous propose que nous réfléchissions ensemble à ce drôle d'OVNI qui est finalement un journal télévisé.
Et plus précisément, le journal de 20h qui est, vous le rappelez à plusieurs reprises dans le livre, la grand-messe du journal télévisé.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous emblématique du journalisme télévisuel. J'aurais pu développer mon centre d'intérêt ou mon focus, comme on dit à l'heure actuelle quand on veut utiliser des anglicismes, sur le 13h, mais il m'a semblé que le 20h était un carrefour et il était assez symptomatique finalement de l'évolution du journalisme à la télévision et surtout, et c'est à mon avis ce qui va nous intéresser, de ses dérives.
Alors pour écrire ce livre, vous avez choisi d'abord de voir, de suivre les journaux de 20h, principalement de TF1 et de France 2, c'est ça ?
TF1, France 2, France 3 et puis ensuite d'Arte, puisque elle est arrivée, c'est une chaîne qui est arrivée après en 1992, et j'ai essayé de le faire sur 4 décennies, 1982, 1992, 2002, 2012. Pourquoi ces 4 décennies ? Parce que elles correspondent pour moi à 4 moments extrêmement précis. 1982, c'est le moment où je me souviens d'avoir regardé le premier journal télévisé de ma vie et d'avoir été très frappé par ce que j'ai vu. Pas compris, mais vu et entendu. Je sentais qu'il se passait quelque chose ce jour-là. 1992, j'étais à l'école de journalisme, le CELSA à Paris, enfin en région parisienne à Neuilly, et plus précisément. 2002, j'étais journaliste chez Arte, après être passé, vous l'avez rappelé, quelques années chez France 2. Et 2012, eh bien, je venais de me faire débarquer du journal d'Arte, avec donc ce temps de réflexion, comme on dit pudiquement, pour réfléchir à son métier, pour réfléchir à ce qu'on peut essayer de devenir dans la profession, si tant est qu'il y a un avenir.
Et vous vous êtes aussi intéressé à l'équivalent allemand, c'est ça, du journal de 20h ?
Alors forcément, puisque lorsqu'on travaille chez Arte, on travaille dans une rédaction franco-allemande, qui est donc 50% française, 50% allemande, et on ne peut pas faire autrement que de s'y intéresser. En plus, il se trouve que je fais partie des rares Français extrêmement germanophiles et germanophones aussi, bien que mon allemand d'aujourd'hui soit quand même largement plus rouillé qu'il ne l'était il y a quelques années, voire quelques décennies, puisque j'ai étudié l'allemand à la fac, avant le journalisme. Oui, je regarde cette offre télévisuelle avec intérêt, avec circonspection, tout en ne pensant pas que c'est la panacée.
Vous êtes peu, en revanche, intéressé aux autres types de journaux, c'est-à-dire les chaînes tout actu. Vous voulez mentionner rapidement, mais vous n'en parlez pas précisément, contrairement à ce que vous faites pour France Télévisions ou TF1, ou au petit journal de Canal+, à toutes sortes d'autres rendez-vous d'actualité.
Bon, moi, je pense qu'on peut s'appeler un petit journal et ne pas en être un. C'est déjà ça concernant le petit journal de Canal+.
C'est plus un magazine d'information, ou même de l'infotainment, c'est-à-dire de l'information et que du spectacle et de l'humour aussi en même temps, c'est ça ?
C'est effectivement ça, et c'est précisément tout ce que je déteste à la télévision, c'est-à-dire le mélange des genres. Moi, j'aime bien que les journalistes fassent de l'information, que les humoristes fassent de l'humour, et que si on peut éviter le mélange des genres, c'est mieux. Quant aux chaînes d'information continue, je pense qu'il est encore, mais peut-être est-ce que je me trompe là-dessus, je trouve qu'il est encore un peu trop tôt pour analyser l'impact de ces chaînes. En revanche, je pense que l'on peut tirer un certain nombre d'enseignements et un certain nombre de conséquences qui se passent actuellement sur les chaînes de classiques, on va dire hertziennes ou en TNT, TF1, France 2, M6. Je pense qu'on peut mesurer l'influence de ces chaînes d'information continue et la mauvaise influence qu'elles ont sur ces chaînes-là.
Alors on va revenir sur les griefs à l'encontre du journal télévisé. Avant cela, une question peut-être un peu personnelle. Pourquoi en 1900, après vos études, donc dans les années 80, vous choisissez de devenir journaliste télé, alors que quand on lit votre livre, on comprend que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère pour critiquer ce type de contenu.
C'est difficile de répondre à cette question. Je pense que, en tout cas, j'ai la ferme conviction que le média télévisé n'a pas dit son dernier mot. Et je pense que l'utilisation qui en est faite à l'heure actuelle n'est qu'une pauvre utilisation. Je pense que l'on peut faire davantage et je pense que l'on peut amener ce média beaucoup plus loin que on ne l'a amené jusqu'à présent. Regardez les journaux dans les années 70, regardez comme ils ont évolué. À l'époque, pour faire très vite, je dirais qu'on faisait de la radio sur des images aujourd'hui, et je donne acte au journal de cela.
Il s'est émancipé de la radio quand même, et c'était important.
Il s'est émancipé de la radio, et je pense que le journal télévisé offre, je n'aime pas ce terme marketing d'offre, etc., mais je trouve qu'il propose aux téléspectateurs un produit qui tient la route et qui existe par lui-même. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a dans les écoles de journalisme une spécialisation radio, une spécialisation presse écrite et une spécialisation télévision. Ça veut bien dire que la télévision a réussi quand même à créer, bon gré mal gré, quelque chose qui tient tout seul.
Raphaël.
Avant de revenir sur le fond, moi je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ce titre qui est à consonance très provocatrice, Jeter le JT. C'est à même pas poser la question, c'est affirmer qu'il faut le jeter.
Il n'y a même pas de point d'interrogation voilà. Sur le titre.
Alors, pour être tout à fait honnête et pour vous révéler une petite coulisse, le titre initial, c'était « Faut-il jeter le JT ?» Et de toute façon, vous avez bien fait de signaler ce titre des Inrecuptibles, parce que c'est finalement là-dessus que j'ai rebondi. « Faut-il jeter le 20h ?» Bon, moi, j'ai dit « Faut-il jeter le JT ?» Mais donc, effectivement, il y avait cette question. Dans la mesure où, et j'essaye de ne pas être hypocrite, dans la mesure où ma réponse est oui, définitivement oui, mille fois oui, on pourra peut-être expliquer les raisons pour lesquelles je milite, non pas pour un journal quotidien, mais pour un magazine quotidien d'information, ce qui est pour moi extrêmement différent. Dans la mesure où je réponds oui à cette question, je pense qu'il faut être honnête avec soi et puis supprimer le point d'interrogation. En revanche, je tiens beaucoup au sous-titre et je vous remercie de l'avoir signalé.
On va vous citer. Si les journalistes se singent, leurs collègues de presse écrite et de radio font de même, comment espérer que les spectateurs ne s'en rendent pas compte? L'information serait-elle condamnée au suivisme? Aurait-elle abandonné sa mission d'exploration? Donc ça, c'est le constat que tout le monde fait à peu près la même chose, couvre les mêmes histoires, c'est ça?
Oui, puis en même temps, lorsque je vous entendais parler, je vous entendais insister sur le mot de suivisme. Aujourd'hui, je n'utiliserai même plus ce terme, j'utiliserai le terme de panurgisme. C'est-à-dire qu'on imite sans réfléchir, voilà. Et ça me pose problème parce que ça voudrait dire, ou ça signifierait que les journalistes sont condamnés à ne faire qu'imiter des modèles existants. Et moi, je prends le pari que les journalistes sont des gens intelligents, il y a aussi des imbéciles, faut pas se leurrer, mais qui sont capables d'offrir autre chose que ce que l'on leur demande de faire.
Oui, moi je voulais poser une question. Vous dites dans le livre que les journalistes, que les JT s'imitent pour mieux se différencier. Je veux bien qu'on revienne sur cette notion de s'imiter pour au final s'éloigner.
Ils s'imitent pour mieux se différencier dans le côté people, c'est-à-dire c'est la quête du plus people, la quête du plus superficiel, la quête du plus insignifiant finalement. Je défie quiconque qui écoute cette émission de faire l'expérience suivante. Vous regardez un journal télévisé français en l'occurrence, qui sont les journaux que je connais le mieux, et à la fin vous vous dites: qu'est-ce que j'ai retenu de ça? On sait qu'en volume d'information, le volume d'information d'un journal télévisé, c'est même pas la première moitié de la première page du Monde. Mais je voudrais savoir ce que les gens retiennent. Pas ce dont ils se souviennent au niveau des images, ce dont ils se souviennent éditorialement. Ce qui fait que, lorsqu'ils ont fini le journal télévisé, ils se disent: tiens, voilà un journal qui a profondément modifié ma conception du monde. Ça, je défie quiconque de pouvoir dire ça aujourd'hui en regardant un journal télévisé. Pourquoi? Parce que, un, le rythme du journal est dans une espèce de course effrénée qui empêche précisément le temps, je cite Godard, ça ne me laisse pas le temps de me construire une pensée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on envisage le monde, que comme une succession de catastrophes, ou on envisage le monde que comme des tremblements de terre, des catastrophes aériennes. La politique française, elle n'est abordée que par le biais des petites phrases. La culture, qui pourrait nous permettre de faire prendre de la hauteur, est complètement tuée dans les journaux au profit d'opérations promotionnelles. Donc, si l'on est véritablement journaliste et si l'on croit véritablement à ce métier, je pense que on ne peut pas faire autrement que d'avoir au moins une réflexion là-dessus. Voilà.
En étant de l'intérieur, en ayant vous-même présenté, produit des journaux, est-ce que vous avez tenté de changer cela ou vous l'avez subi ?
Les deux, mon général. Les deux, mon général. Il est évident que lorsqu'on est en début de carrière, on n'ose pas trop. On n'ose pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a un environnement économique qui fait que lorsque vous êtes pigiste, vous voulez une chose, c'est vous voulez continuer à travailler pour ce média. Donc, inconsciemment, vous vous mettez vous-même la main sur la couture du pantalon. Après, le temps avançant, on prend de l'assurance et puis on gagne en peut-être en profondeur. Et puis, on est aussi capable de justifier les raisons pour lesquelles on est en désaccord vis-à-vis d'une hiérarchie. Ouais, j'ai essayé, moi, de le faire. Voilà, y suis-je arrivé ? Sans doute pas assez. En tout cas, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous dites.
On a le temps.
C'est que lorsqu'on est, alors j'allais dire aux commandes d'un journal, c'est pas vrai. Je n'étais pas aux commandes. J'étais
contrairement à ce que croient beaucoup de gens et contrairement aussi à ce que laisse penser l'hyperpersonnalisation. C'est un des reproches que vous faites aux journaux télévisés de 20h, donc le journal de David Pujadas, le journal de PPDA, etc. Donc contrairement à ce qu'on croit, il y a toujours une grande équipe derrière. Il y a souvent des rédacteurs en chef qui vont décider des sujets et le présentateur, bon, en fonction de son pouvoir, il pourra changer les choses ou influer, mais ce n'est pas lui qui, en théorie, en tout cas, doit décider de ce qu'il y a dans le journal.
Voilà, c'est ça. C'est le journal de la rédaction de France 2, présenté par... Maintenant, c'est le journal, sous-entendu, égal David Pujadas. Je précise aussi une chose, mais j'aurais peut-être sans doute dû spécifier cela au début de la conversation, c'est que toutes les critiques que je lance dans ce livre, Jeter le JT, je me les applique à moi-même en premier lieu. Hein.
Hyper-personnalisation, donc on a compris, ethnocentrisme, manque de curiosité internationale, goût pour les sujets météorologiques, goût pour ce qu'on appelle les marronniers, c'est-à-dire les sujets qui ressortent tous les ans à la même saison, la rentrée des classes, les cartables, etc. Omniprésence d'experts, toujours les mêmes experts.
Ah, les experts, oui.
Etc. Ça, ce sont les principaux griefs à l'encontre des journaux télévisés.
Bah, alors prenons, essayons de les prendre dans la liste, ethnocentrisme, alors je suis très heureux de pouvoir dire cela.
Peut-être, donc,
alors l'ethnocentrisme, c'est-à-dire en fait on regarde et on essaye d'analyser une société étrangère différente avec les yeux nationaux, c'est-à-dire avec les yeux français. Je suis très heureux de travailler pour une chaîne de télévision qui s'appelle Arte et qui essaye précisément de ne pas faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. Impossible parce que nous sommes franco-allemands et donc... Qu'est-ce que l'ethnocentrisme chez Arte ? Sinon avoir un œil allemand et un œil français, lequel choisit-on, hormis si on est borgne ? Et puis ensuite, oui, effectivement, l'ethnocentrisme, on essaye chez Arte de regarder les civilisations et de regarder les sociétés étrangères avec les yeux des gens qui habitent dans ces sociétés. Ça me semble beaucoup plus intéressant.
Et de manière plus prosaïque, l'idée de l'ethnocentrisme, c'est aussi quand il y a une catastrophe quelque part, on va parler des victimes françaises, etc., même si c'est en Inde ou à l'autre bout du monde. Et l'idée, c'est de s'émanciper de cela, justement.
Absolument. Deuxième, je prends
manque
à la volée...
Manque de curiosité internationale.
Manque de curiosité internationale, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est-à-dire que on s'intéresse finalement à l'étranger que sous l'angle d'un dérèglement. C'est quand même voir le monde extérieur par le petit bout de la lorgnette. Mais je reviens deux secondes sur l'ethnocentrisme. Je me souviens d'un sujet qui avait été fait par France 2. France 2 qui peut quand même se targuer d'avoir un bureau de correspondant permanent à Pékin et qui nous a fait un sujet, figurez-vous, sur ces grands patrons français qui réussissent à s'exporter en Chine ou sur ces Chinois qui font construire des grandes villas et dont les architectes sont français. Mazette, mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à trouver quand même pour expliquer la civilisation et les changements survenus en Chine? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à trouver que cela? Godard disait la chose suivante, le cinéma fabrique de la mémoire, la télévision fabrique de l'oubli. Quand on se replonge dans les archives de la télévision, on se rend compte combien on a oublié. Et là aussi, j'invite quiconque à faire l'expérience, c'est de revenir par exemple à des journaux d'il y a par exemple 5 ans. On sera surpris d'y voir un certain nombre de choses absolument incroyables.
Petite pause dans l'atelier, on se retrouve dans quelques instants. Nous serons toujours, bien entendu, avec William Erigoyana tout de suite.
L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Atelier des médias, suite. Nous sommes toujours avec le journaliste William Erigoyana en plateau cette semaine. Pour interroger William, je suis avec Raphaël Constant de l'atelier des médias.
L'atelier des médias, la web-émission participative.
RFM.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
William Mirigoyen, je rappelle que vous venez de publier Jeter le JT aux éditions François Bourin. On va justement écouter un extrait du journal d'Antenne 2. Alors c'était le 15 septembre 1982. Il est présenté ce journal par Bernard Langlois. Vous citez cette édition dans votre livre. Elle est édifiante à plusieurs titres. Je signale, car c'est pas très évident quand on l'écoute, que ce que l'on va entendre est le lancement, le début du journal.
Il était jeune, 34 ans. Il était intelligent et volontaire, ambitieux et inquiétant tout à la fois. Élu, voici 23 jours président de la République libanaise, il aura eu juste le temps de savourer l'ivresse de la victoire, mais pas celui d'accéder à la réalité du pouvoir. C'est dans 9 jours que Béchir Gemayel devait devenir officiellement président du Liban. Sa mort hier dans un attentat risque fort de rallumer très vite les feux mal éteints de la guerre civile. Malheureux pays. Elle n'était plus très jeune, 52 ans, elle était toujours belle dans sa maturité, de femme épanouie, passée sans transition de la célébrité sulfureuse d'Hollywood à celle respectable du Gotha mondain. Curieux destin que celui de Grace Kelly, actrice talentueuse, distinguée par un prince, qui lui offrit un jour sa main, sa couronne et de partager son trône planté sur un caillou cossu dans un royaume d'opérette. Grace de Monaco est morte, elle aussi, des suites de ses blessures après un accident d'auto. Cela ne changera rien au destin de l'humanité. Juste un deuil ordinaire, la peine ordinaire d'une famille célèbre qui nous était familière par la grâce des gazettes. Bonjour à tous. Voilà donc de quoi est faite d'abord l'actualité de ce jour, de ces deux morts de gens illustres qui n'ont certes pas le même poids sur les balances de l'histoire, mais qui offrent l'une et l'autre matière à réflexion. Gemayel d'abord, il n'était guère besoin d'être expert en matière de politique libanaise pour prévoir que son élection il y a 3 semaines à la présidence de la République du Liban ne réglait pas tout après 8 ans de guerre civile dans un pays envahi, occupé au nord par l'armée syrienne, au sud par l'armée israélienne. Seul un homme de compromis, d'équilibre entre les communautés pouvait tenter de réaliser l'impossible, la réconciliation des Libanais, la reconstruction de l'État. Gemayel était tout sauf cet homme-là, dont on ne sait d'ailleurs pas s'il existe. Chef de clan, baroudeur et candidat qui plus est des Israéliens, son élection ressemblait à une gageure. Tout observateur attentif du Proche-Orient le savait, même si on ne le disait pas trop, histoire de lui laisser une chance de laisser cet homme très jeune s'imprégner de ses fonctions nouvelles, de se dépouillé de sa défroque d'activiste partisan. On ne lui aura pas laissé ce temps-là. Grace de Monaco, l'image du bonheur sucré, véhiculée jusqu'à l'écœurement par la presse du cœur. On n'ignorait rien de sa vie, poids des mots, choc des photos, des froidaines de sa fille aînée, Caroline, des émois de la cadette Stéphanie, des exploits sportifs du petit prince, Albert. Malgré cette ronde folle des paparazzi autour de la famille Grimaldi, cette femme, aujourd'hui disparue, laissera le souvenir d'une personne de qualité. Cette roturière avait la noblesse naturelle et le prince régné, dont le choix à l'époque avait surpris, ne s'était pas mépris. Respectons sa peine, qui est sans doute immense.
C'était le journal de Bernard Langlois du 15 septembre 1982, un journal que vous citez dans votre livre, William Mirigoyen, Jeter le JT. J'imagine qu'il faut pas jeter ce JT-là, irrévérencieux à souhait, extrêmement bien écrit. D'ailleurs, on entend parfaitement que c'est de la radio filmée, hein, parce que le ton, l'écriture, on n'a pratiquement pas besoin des images. Alors j'ai fait une bêtise en le préparant, c'est qu'il y avait un silence beaucoup plus long entre les deux premiers sujets. Ouais, le temps que les images arrivent, il les attendait 2, 3, 4 secondes, je l'ai réduit bêtement et en fait j'aurais pu ne pas le réduire pour plonger encore plus dans cette réalité.
Voilà, c'est ce journal qui m'a, je pense, donné envie de faire ce métier. Alors évidemment pas présentateur télé, mais bon, il se trouve que dans ma famille on était très à l'opposé politiquement de tout ce qui était signifié là, et que j'ai d'un seul coup entendu un cri général de mes parents vitupérants contre ce présentateur. De quoi se mêlait-il? Qu'est-ce qu'il osait dire de telles choses?
Ce qu'il faut préciser peut-être, alors je ne sais pas si vous allez le faire, c'est qu'il parlait à sa hiérarchie d'abord, Bernard Langlois.
Absolument.
Il se plaignait de devoir traiter les deux décès de la même manière, et il le fait du coup dans son style, et il a été écarté de la présentation du journal télévisé par la suite.
Alors plusieurs choses. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler avec une personne qui était dans ce journal ce jour-là et qui m'a raconté effectivement qu'il y avait quelqu'un de la hiérarchie qui a attendu Bernard Langlois et qui lui a dit: Bernard Langlois, merci, vous venez de présenter votre dernier journal. Donc c'en était fini pour lui. Je voudrais revenir sur une chose. Vous avez parlé du style. Où est-ce qu'on entend aujourd'hui les mots gageure et défroque? Où est-ce qu'on entend un style comme ça? Est-ce que les auditeurs qui nous écoutent peuvent raisonnablement dire qu'ils n'écoutent pas là, ce qui est en train de se passer. Il se passe quelque chose. Maintenant, vous dites, Ziad, qu'il règle en gros ses comptes avec sa hiérarchie. Très honnêtement, je ne le sais pas. En tout cas, je sais une chose, c'est qu'il signifie ce qu'est, à son sens...
C'est ce que vous insinuez dans le livre, hein, voilà. C'est-à-dire qu'il était mécontent de devoir...
D'accord, mais pour moi, il signifie au public auquel il est censé s'adresser que ce qu'on lui demande de faire ce jour-là, pour lui, ne mérite pas le terme d'information. Et je le crois d'autant plus volontiers qu'il se trouve que j'ai travaillé à France 2 au moment de la mort d'une autre princesse, la Diana. Princesse Diana. Il se trouve que ce jour-là, si on regarde le journal de 13h ou du 20h du lendemain, sur, on va dire, 35 ou 40 minutes d'édition, il y en avait 38 qui étaient consacrées à ce non-événement. Et que le même jour, des gens s'étaient fait égorger quelque part en Algérie, et que sous prétexte que nous n'avions pas les images, nous n'avions rien montré sinon une carte. Je trouve cela d'une indécence folle, et je trouve que là encore, ça mérite question.
Raphaël ?
Vous parliez des non-images, moi je voudrais rebondir sur la question des agences de presse que oui. vous pointez énormément oui. du doigt dans votre livre. Vous expliquez que les rédactions des journaux télévisés ont beaucoup trop accès à ces banques d'images et ne créent pas assez leurs propres images. Mm-hmm. Donc n'ont pas assez recours à leurs correspondants, aux reportages de terrain. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus cette question?
Oui, ils sont peut-être aussi un petit peu esclaves de ces images pour parler d'un sujet. Vous venez de le mentionner pour l'Algérie. Ça nous ramène aussi à ce journal de Langlois où finalement c'est une photo qui va illustrer la plupart des propos sur Bachir Gemayel. En tout cas au début, enfin on n'avait pas cette nécessité, on ne sentait pas que c'était impératif d'avoir les images pour parler d'un sujet.
Absolument. Alors, je vais revenir à la question de Raphaël. Comment une chaîne peut-elle se singulariser par le haut, c'est-à-dire par l'intellect? Ben, en proposant non pas ce que proposent toutes les autres chaînes, en proposant des reportages. Ça veut dire on envoie une équipe sur place. Je dis ça parce que je pense que pour plein de gens qui regardent le journal télévisé, ça n'est pas clair. Il y a deux sources d'images. Il y a ce que fait filmer la chaîne de télévision, ce qu'elle décide de filmer. Elle envoie des équipes pour cela, ou bien elle a des correspondants sur place. On pourra parler de la pauvreté du réseau de correspondants des télévisions françaises. Et puis, il y a ce qu'on appelle ces agences d'images. Alors, qu'est-ce que c'est ces agences d'images? Ce sont ce qu'on appelle les EVN, Reuters, Associated Press, Television Network,
en gros,
ou l'AFP en France, de quoi s'agit-il? C'est un robinet à images dans lequel vous puisez des images. Toutes les chaînes quasiment sont abonnées à ces flux d'images. Donc elles biberonnent aux mêmes images, aux mêmes sources. Ce qui se distingue, c'est la qualité du commentaire. Mais les images...
Parce que ces images vont servir, on va les remonter et on va écrire
Absolument.
Un commentaire qui va permettre de traiter une actualité qu'on n'a pas eu le temps de traiter
Absolument.
Parce que les correspondants n'y sont pas allés
Absolument.
Ou parce qu'on ne souhaite pas les envoyer, c'est trop petit pour nous, etc.
Mais les téléspectateurs ne doivent pas se méprendre. S'ils ont l'impression d'avoir vu les images sur TF1 et sur France 2, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces chaînes s'approvisionnent au même robinet. Donc le seul moyen aujourd'hui de se distinguer, c'est de faire du reportage. Or, force est de constater que le reportage, ça devient un produit de luxe. Oui, la télévision, ça coûte de l'argent, mais moi, mon propos, c'est de dire que on peut faire bien des économies sur bien des programmes complètement abrutissants qu'on voit toute la journée, pour le réserver aussi à l'information. Un budget, et on le sait très bien en France par les temps qui courent, c'est un choix politique.
Raphaël.
Alors, un autre moyen de s'émanciper des agences de presse, c'est parfois de combler le manque d'images par une infographie, qui est un moyen très pédagogique d'expliquer un fait. Mais encore une fois, vous critiquez cette infographie en expliquant qu'elle prenne plus la place des journalistes de terrain, des reporters, des correspondants, alors que c'est une nouvelle écriture, c'est une innovation pour le journal télévisé.
Je ne critique pas la présence de ces infographies en tant que telles. Ce que je remets en question et ce que je critique, c'est le système des vagues et le système des modes. C'est ça qui m'agace à la longue, c'est... À faire trop de ça, on fait moins d'autres choses. Et en particulier, on fait moins de reportages.
Mais c'est aussi un moyen de faire intervenir la collégialité du journal télévisé, de faire intervenir un journaliste de la rubrique politique, par exemple, ou économie. Enfin, vous dites beaucoup dans le livre qu'on ne voit pas assez les autres. On ne voit que le présentateur.
Ah oui, ça d'accord. Non, mais je pense que l'infographie et la collégialité sont, à mon avis, deux choses différentes. Ce que j'entends par collégialité, c'est que, par exemple, et on revient à la question de précédente de Ziad, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une personnalité politique sur le plateau du 20h, pourquoi la seule personne à interviewer la personnalité politique, c'est le présentateur? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas le chef du service politique? Pourquoi ce ne sont pas des gens qui suivent l'UMP, qui suivent le PS, qui suivent le Front National, qui suivent le Front de Gauche? Pourquoi ces gens-là, on ne les voit pas? Mais moi, si j'étais au service politique, j'enragerais de voir ça. J'enragerais. Comme s'il n'y avait qu'un messie. Le problème, c'est que, en disant cela et en faisant faire cela uniquement par le présentateur, on signifie qu'il n'y a qu'une ligne, et donc il n'y a pas de débat idéologique dans les journaux. Et moi, je veux précisément cela, que le débat idéologique se voit. Pourquoi? Parce que, et je termine juste avec ça, on disait dans le temps que Libération pense que, on disait Le Figaro affirme que, mais où est-ce qu'on dit ça aujourd'hui des chaînes de télévision? Moi, je souhaiterais qu'on dise France 2 pense que, quitte à se tromper, c'est pas le problème. TF1 affirme ça, et donc ça dirait que ce qui apparaît comme étant impersonnel, d'un seul coup devient organique, personnel et donc humain.
Je vais vous citer justement, puisque ça fait écho à ce que vous êtes en train de dire. Vous mettez à bas cette idée que les journalistes et les journaux doivent être objectifs. Je vous cite. Ah là là. Les images ne peuvent en aucune façon être considérées comme neutres ou objectives, terme dont raffole pourtant une partie du grand public quand il critique le travail des journalistes. Et les journalistes aussi d'ailleurs utilisent souvent ce mot pour qualifier leur travail. L'acte d'informer qui doit décrire, identifier, qualifier les faits, raconter, rapporter des événements, expliquer, fournir les causes de ces faits et événements change radicalement. Il ne peut donc y avoir de vision objective du monde. Autre passage où là, vous critiquez ce que vous venez de faire, le manque d'éditorialisation, c'est-à-dire de prise de parti, de positionnement des journalistes. La télévision, contrairement à la presse écrite, n'aurait-elle pas le droit d'avoir des éditorialistes? L'injustice est flagrante. Quand on pose la question à des professionnels de l'audiovisuel, ils vous répondent très souvent que la petite lucarne est un mass-média qui s'adresse à tout le monde, que le public fait l'effort d'acheter un quotidien, mais pas un journal télévisé. Au fil des ans, cette incapacité à porter sa voix a conduit les médias, et plus particulièrement la télévision, à se ressembler, à favoriser l'imitation au détriment de l'affirmation de soi.
Je pense qu'il y a une confusion, et je pense qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle qui consiste à rapprocher subjectivité et honnêteté intellectuelle. Je pense qu'on peut être d'une tendre vers la neutralité, soi-disant, et d'être d'une malhonnêteté intellectuelle à tout craint. J'ai essayé, moi, à la présentation, de faire une présentation personnalisée. Pas personnelle, personnalisée. Avec ce que je pense, mes fibres, mon tempérament, comment dire, mes affinités politiques. Mais ça ne m'empêche nullement de reconnaître, un moment ou à un autre, que je suis dans l'erreur. L'un n'empêche pas l'autre. Deuxième chose, oui, je crois véritablement au débat. Au débat. Après tout, lorsque l'on regarde l'histoire de ce pauvre pays qu'est la France, de ce vieux pays qu'est la France, lorsqu'on regarde Voltaire et Diderot, comment ils s'affrontaient avec le pouvoir, oui, bah oui, je crois qu'il y a encore des moyens de s'affronter et de clasher et d'être, comment on dit aujourd'hui, d'être clivant, c'est ça? Voilà. Bah oui, moi je revendique cela. Je revendique véritablement cela. Je revendique un journalisme de combat et surtout pas un journalisme d'eau tiède.
Les deux chanteurs du groupe NTM, Yves Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français.
La chanson de Youssoufa, il faut la citer quand même. C'est « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». C'est une menace de mort.
Les accusations sont graves et comme tard pour faire vexer. Vrai qu'on est trop hard et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille. Mais c'est le seul son hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. Fait un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indices, les dizaines chantent le mal. Et dans leur bêtise, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que du slam. Coupable idéal, MC mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale. Comme Monsieur R, pas facile d'ignorer ça. Pas facile d'opérer seul à la place de Orelsan. Moi c'est clair que j'aurais le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Je défends la cause des frères au sud qui les fassent du nord. Mais ma liberté d'expression en chute est sous menace de mort. Yeah, yeah. temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps, temps irrémédiable. Rire, les temps sont inégales. Je fais du rap et ce temps est illégal. Rire, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps, temps irrémédiable. Rire, les temps sont inégales. Je fais du rap et ce temps est illégal.
RFI.
William Eric Goyen, vous vous êtes basé pour écrire ce livre sur les journaux de 2012, de France Télévisions, de TF1, puis vous êtes revenu aussi dans le passé, 92, 82, 2002. Depuis la rentrée 2004, France 2 a réaménagé son journal du soir en y ajoutant notamment une séquence quotidienne de fact-checking. D'ailleurs, vous l'appelez de vos voeux dans le livre qu'on fasse du fact-checking, c'est-à-dire de la vérification d'informations, etc. Ça s'appelle l'œil du 20h. Elle est tournée à la première personne, c'est-à-dire qu'on voit le journal qui est en train de mener l'enquête. On va écouter un extrait de l'œil du 20h du 30 septembre 2014. Le sujet diffusé dans le journal de 20h dure 5 minutes 34. C'est énorme. Vous regrettez dans le livre que les sujets soient trop courts. 1 minute 30, 2 minutes maximum. Ce sujet s'appelle « Quand les sénateurs puisent dans la réserve ».
C'est une cagnotte dont on a longtemps ignoré le montant et même l'existence. Mais depuis 10 jours, le chiffre est désormais public. 53 877 871 euros, précisément. De l'argent public, réparti entre les 348 membres du Sénat pour financer des projets locaux. Mais ces deniers sont-ils toujours bien partagés, utilisés à bon escient? Nous avons ouvert l'œil des jours durant sur ces chiffres dévoilés pour la première fois.
Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre le sénateur que vous êtes et le maire que vous êtes? Le sénateur donne au maire, qui est la même personne.
Il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais le maire n'aurait peut-être pas fait les projets qu'il a fait s'il n'y avait pas eu cette possibilité.
De là à donner l'exclusivité de votre réserve, c'était 94%.
Cette année, c'était ça, d'autres années,
94%.
J'ai été 25 ans ici. Cette année, c'était ça, d'autres années, c'était autre chose.
C'était un extrait de l'œil du 20h du 30 septembre 2014. L'œil du 20h, c'est cette nouvelle séquence du journal de France 2, une séquence de fact-checking, de vérification de faits. C'est assez bien fait, on l'entend, on comprend d'ailleurs presque tout, on n'a même pas besoin de l'image à la radio, on comprend presque tous les éléments. Et ça va au-delà, le sujet dure 5 minutes, l'enquête avance, ils vont en Corse, etc. C'est vraiment extrêmement bien fait, on sent du travail, de l'enquête, de la mise en contexte, ils vont interroger des personnes, ils ont étudié les chiffres, ils ont fait des moyennes, etc. C'est assez intéressant quand même.
Je suis content qu'ils aient lu mon livre. hormis cela, bon, moi je suis.
C'est quand même une évolution intéressante. Alors,
c'est tout ce que vous souhaitez dans
le livre.
C'est résolument une évolution intéressante. Mais qu'est-ce que ça veut dire, si on réfléchit bien, le fact-checking? Ça veut dire, c'est une mission qui est normalement dévolue aux journalistes. C'est-à-dire, normalement, avant de balancer une info, on essaye de croiser les sources, on essaye d'avoir des points de vue différents pour questionner cette information. Donc c'est tout ce que la profession devrait avoir fait ces dernières années. Et là, ce travail qui est donc fondamental du journaliste, il nous est présenté comme étant une nouveauté, alors que ça devrait avoir lieu et ça devrait avoir cours depuis toujours.
Je précise simplement que si on parle de fact-checking, c'est pas simplement parce que c'est une mode, c'est aussi parce que les nouveaux moyens de communication ont permis d'aller beaucoup plus vite dans la vérification, de faire de la vérification parfois en direct de ce qu'est en train de dire un politique, etc. C'est pas juste parce que c'est une mode. Et effectivement, vérifier les faits, c'est la base du journalisme.
Absolument. Voilà. Mais en même temps, je pense que pour faire ce travail-là, il faut pas être inscrit dans une course à quoi que ce soit.
Est-ce que le fact-checking n'irait pas de pair avec une certaine méfiance envers la télévision et les journaux télévisés, celles que vous décrivez particulièrement dans votre livre? Est-ce que ce ne serait pas une façon de rassurer les téléspectateurs, de montrer comment on mène l'enquête, quelles sont les questions posées?
C'est possible. Auquel cas, ça voudrait dire que, et là, ça serait assez inquiétant pour les journaux télévisés, ça voudrait dire que les journaux télévisés presque se tirent une balle dans le pied. Ça voudrait dire que ils auraient pris conscience qu'ils étaient sous une motion de défiance de la part du grand public, et donc pour retrouver des galons de légitimité, ils feraient ce travail pour retrouver de la crédibilité auprès du grand public. C'est possible.
Le 6 novembre dernier, France 4, une chaîne du groupe France Télévisions, a lancé L'Autre JT, qui est un programme qui se présente comme une alternative au journal télévisé et qui se définit comme un contre-JT. Pour en savoir plus sur ce que va être ce nouveau programme, ce nouveau rendez-vous, j'ai rencontré Boris Razon, le directeur éditorial de France 4 en charge des nouvelles écritures.
Ça va être un rendez-vous d'information un peu différent. L'idée, c'est de proposer, comme son nom l'indique, une alternative à l'information telle qu'elle est diffusée habituellement à la télévision, mélangeant, j'allais dire, avec brio et énergie, à la fois des sujets d'investigation, d'enquête, qui mettent en scène le journaliste, qui montrent un peu comment l'info elle-même se fabrique, c'est de l'information en mode gonzo, et quelques pastilles humoristiques qui peuvent parfois amener de l'information en traitant d'une rumeur, par exemple, ou en traitant d'une fausse info, ou raillent, font une satire des codes de l'information tels qu'on les retrouve partout à la télévision. Pourquoi du gonzo reportage? Pourquoi cette subjectivité? Pourquoi ce parti pris assumé? Parce que on croit que aujourd'hui, à l'heure d'une défiance généralisée à l'encontre des médias, mais aussi des institutions, de tout ce qui nous représente, l'affirmation d'une personnalité et d'une subjectivité, d'un regard assumé, c'est au fond une manière de faire transiter la confiance, c'est-à-dire j'accorde ma confiance non pas à une institution, un média, mais à une personne qui m'a dit voilà ce que j'ai vu, et guère plus. Donc voilà, c'est une émission hybride qui se veut moderne, parlons du monde avec sérieux, tout en ne se prenant pas trop au sérieux.
C'était donc Boris Razon, directeur éditorial de France 4, qui parlait de ce que va être ce rendez-vous lancé le 6 novembre dernier, l'autre JT, l'autre journal télévisé de France 4, un journal qui mise notamment sur ce qu'on appelle le gonzo journalisme. Il l'a expliqué, mais je ne sais pas si on comprend clairement. Donc le gonzo journalisme, c'est un journalisme hyper subjectif où le journaliste se met à la première personne, se montre, s'implique dans l'histoire. On sent, en tout cas dans cet exemple, on sent aussi dans l'exemple de ce qu'a lancé France 2, qu'il y a une forme d'ébullition, une forme de réflexion sur ce que pourrait être le JT. Alors Boris Razon l'explique clairement, ça n'est pas un journal télévisé, c'est un magazine hebdomadaire, mais le nom n'est pas innocent, et d'ailleurs Raphaël lui fait remarquer à plusieurs reprises.
Je suis en désaccord avec tout ce qui a été dit, mais tout. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui pense marketing. Vraiment quelqu'un qui pense marketing. Ce n'est pas une tare en soi. C'est-à-dire cette personne a vraisemblablement...
Il est directeur éditorial,
il est directeur
son rôle
éditorial,
de réfléchir
son
à comment
rôle,
il va
etc.
être accueilli un programme,
sauf que
etc.
Sauf que moi, je fais pas ce métier-là pour ça. Je fais pas ce métier-là pour ça. D'ailleurs, je voudrais juste suggérer une chose au service public. Si vraiment ils sont en accord avec eux-mêmes et en accord avec leur philosophie, je voudrais qu'ils posent la question... publiquement, de savoir s'ils peuvent ne pas être mesurés par médiamétrie. Voilà. Si on est du service public, et si on n'a pas envie d'être dans l'audience, est-ce qu'on peut un moment poser la question et dire, voilà, nous, service public, on ne veut pas être mesuré parce que ça n'est certainement pas à cette aune-là qu'on va déterminer notre ligne éditoriale par rapport à ça.
A priori, on peut pas reprocher à France 4 d'être obsédé par les chiffres de médiamétrie. Ils sont plus justement dans l'exploration, etc.
Non, enfin... mais en tout cas, Ziad, ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on voit bien qu'il y a des tentatives
voilà,
à droite.
Voilà. Il se passe des choses.
Ça, c'est sûr. Et ça me laisse penser que finalement, mon constat, il est pas tout à fait faux. Et je pense même que démographiquement, je pense même qu'économiquement, ce journal est condamné. Je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça. Pourquoi, encore une fois, n'envisager que de la légèreté quand on parle des jeunes? Il se trouve que dans mon environnement, je croise aussi des 12, 13, 14, 15, 16 ans qui n'ont pas envie d'être pris pour des bonnets, qui n'ont pas envie de choses clippées et qui ont envie aussi qu'on leur parle comme à des adultes. Alors ça veut bien dire une chose, c'est que il faut pas non plus être plus royaliste que le roi avec les jeunes. Moi, les jeunes, je sais pas ce que c'est. J'en connais certains qui démentent complètement ce qui est dit par les directeurs des programmes divers et variés.
On va conclure sur une citation. Vous avez le droit de la commenter, William Erigoyen. Faut-il jeter le JT ? Oui. Et si la réponse est catégorique, c'est parce que le corps présente de trop nombreuses métastases. Cette mise à mort nécessitera, j'en suis convaincu, une reconstruction lente, laborieuse même, qui découragera les bonnes volontés.
Alors,
c'est pessimiste.
C'est pessimiste, et en même temps, je vais contrebalancer ce que j'ai dit. Si des bonnes volontés se manifestent, et considèrent ce livre comme étant une petite pierre à l'édifice, et qu'ils ne voient pas dans ce livre uniquement un procès ou un procès de Khmer Rouge, parce que ça aussi, il faudrait s'interroger sur la capacité d'autocritique de la télévision. La télévision est prête et prompte à donner beaucoup de leçons de morale. En revanche, quand il s'agit de balayer devant sa porte, elle est très peu encline à le faire. Et la preuve en est, et je vous remercie Ziad de m'avoir invité, c'est que ce livre n'a pas fait une seule minute sur un plateau de télévision. Moi, je suis prêt à me retrousser les manches pour essayer de contribuer à ce que, effectivement, en quatrième de couverture, j'appelle de mes voeux un Vatican II de l'info, et je dis ça sans excès.
Merci William Eric Goyen.
Merci.
On trouvera sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien, ainsi que des infos, des liens complémentaires. À bientôt.
À bientôt.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 361 de l'atelier des médias proposé par Marie-Catherine Beut, Francis Pisani, Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Julnar Douek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Merci pour votre écoute, vos réactions, vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.